Nous allons accueillir Amélie Lemierre qui vient de Lille et qui va nous faire un état des lieux des exsanguinotransfusions en France. Merci beaucoup Amélie.
Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir conviée à cette journée pour me permettre de présenter mon travail. Il s'agissait du coup d'une étude qui s'intéressait aux exsanguinotransfusions néonatales dans les maternités de niveau 3 en France. C'était une étude rétrospective sur 6 ans. Donc un petit rappel du contexte actuel. Donc le risque principal de l'hyperbilirubinémie non conjuguée néonatale sévère sont bien sûr la neurotoxicité liée à la bilirubine qui peuvent entraîner des encéphalopathies aiguës ou chroniques. Ces encéphalopathies sont toujours un problème d'actualité. Effectivement, il y a une inquiétude actuelle sur la résurgence de ces pathologies depuis les années 90-2000. Wojcicki évoquait plusieurs hypothèses sur les facteurs pouvant influencer cette résurgence, notamment l'augmentation de l'allaitement maternel et du coup parfois de son échec, et aussi la durée de plus en plus courte de séjour des bébés en maternité. Donc on pouvait voir effectivement un parallèle avec une augmentation des encéphalopathies hyperbilirubinémiques chroniques. Face à cette résurgence de ces encéphalopathies, on peut se poser la question d'une résurgence également de la nécessité d'avoir recours à l'exsanguinotransfusion. Pourquoi ? Puisque l'exsanguinotransfusion reste la technique la plus efficace pour diminuer rapidement la bilirubine sanguine. Ça reste évidemment le traitement de première ligne en cas d'encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë et aussi le traitement de dernier recours pour les autres ictères sévères avec échec des autres thérapeutiques mises en place. Donc c'est un geste qui reste indispensable et parfois inévitable. Or, cette technique est devenue de plus en plus rare depuis l'avènement de la photothérapie intensive, entre autres. On voyait dans l'étude de Stenner qui mettait en évidence une diminution de moitié du nombre d'exsanguinotransfusions pour 1000 naissances et du nombre d'exsanguinotransfusions pour 1000 entrées en réanimation. Et pourtant, c'est une procédure qui comporte beaucoup de complications qui sont fréquentes et parfois même sévères, entraînant une mortalité non négligeable qui varie selon les études de 0,5 à 3,2%. Il est donc très important de maintenir notre expertise, notre capacité à réaliser cette technique aujourd'hui. Nous sommes donc intéressés aux exsanguinotransfusions en France. L'objectif de cette étude a été de réaliser un état des lieux de sa pratique dans les maternités de niveau 3 et d'étudier également les protocoles qui guidaient les médecins dans la réalisation de cette procédure. Pour cela, nous avons fait une étude des pratiques professionnelles à type d'enquête de pratique. C'était une étude rétrospective multicentrique. Elle s'est réalisée via un questionnaire comportant 20 questions sur l'activité générale des centres et leur activité en matière d'exsanguinotransfusion, mais également les détails sur la mise en œuvre de cette technique dans les centres. Le questionnaire a été adressé à toutes les maternités de niveau 3 en France, une distribution et un recueil qui se sont faits entre janvier 2018 et mars 2019. Nous avons également réalisé une analyse statistique, notamment pour traiter les données épidémiologiques. Nous avons en deuxième partie également récupéré les protocoles que les centres nous avaient fournis avec les questionnaires et nous les avons comparés aux recommandations françaises de l'HAS et de la SFN. Donc pour les résultats concernant le questionnaire, au niveau de l'épidémiologie des exsanguinotransfusions, on avait 229 exsanguinotransfusions qui avaient été réalisées sur la période de l'étude, donc sur 6 ans. Avec une incidence moyenne de 38,2 exsanguinotransfusions par an dans les maternités de niveau 3 en France. On note une augmentation entre 2012 et 2017 du nombre d'exsanguinotransfusions réalisées d'environ 13%, environ une augmentation de 5% par an du nombre d'exsanguinotransfusions. Après analyse statistique, cette augmentation n'était pas significative. Et on note également un pic d'exsanguinotransfusion sur l'année 2015. On remarquait également que l'incidence des exsanguinotransfusions était plus importante dans les réanimations réalisant plus de 500 entrées par an, mais qu'il y avait aussi une incidence non négligeable dans des centres réalisant finalement 100 à 200 entrées par an également. Il n'y avait pas de lien significatif après analyse statistique entre le taux d'exsanguinot par nombre d'entrées en réa et le nombre d'entrées en réanimation. Concernant leur fréquence, les exsanguinotransfusions sont finalement rares. Donc il y a une exsanguinotransfusion pour 435 entrées en réanimation, tout type de réanimation confondu, et 28 exsanguinotransfusions pour 100 000 accouchements. Donc ce n'est pas fréquent. Presque c'était plus fréquent dans les centres réalisant beaucoup d'accouchements, donc entre 3 000 et 4 000 accouchements. Néanmoins, il n'y avait pas de lien significatif après analyse entre le taux d'accouchement et le nombre d'accouchements dans les centres. En termes d'activité d'exsanguinotransfusion dans les centres qui ont répondu, on note que la majorité des exsanguinotransfusions sont réalisées par des réanimations néonatales. Néanmoins, ça reste peu fréquent puisque la majorité des centres réalisent moins de 2 exsanguinotransfusions par an en moyenne. Certains n'en réalisent pas du tout. Et les centres qui en réalisent plus de 2 par an ou au moins 2 sont assez rares. Il n'y en a que 2 en France et il s'agissait de Trousseau et de Lyon HFME. Par rapport à la mise en œuvre des exsanguinotransfusions, plusieurs questions étaient demandées au centre lors du questionnaire, notamment l'indication des exsanguinotransfusions. La majorité des centres disent qu'ils utilisent le taux de bilirubine totale sanguine. Alors soit ils l'utilisent seuls, en majorité à 72%, ou alors associés à d'autres critères. On remarque que les signes d'encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë ne représentent que 2,3% des réponses à cette question. Les courbes utilisées pour reporter la bilirubine transcutanée sanguine sont majoritairement les courbes de l'American Academy of Pediatrics, du CNRHP ou SFN, qui sont des courbes relativement similaires, dans 81% des cas. Ensuite viennent les courbes NICE, les courbes anglaises. On a également des courbes qui sont un peu obsolètes, comme celle de Diamond, qui commence à être vraiment vieille, et des courbes qui restent inconnues, non référencées, pour lesquelles on n'a pas retrouvé leur origine. Quand on posait la question des indications formelles à l'exsanguinotransfusion, la majorité des centres, pour le coup, faisaient référence aux signes neurologiques d'encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë, mais seulement à 29%. Était aussi évoqué l'hyperbilirubinémie en zone d'exsanguinotransfusion et l'échec des traitements. Concernant les pathologies qui étaient responsables des exsanguinotransfusions qu'on a retrouvées sur la période étudiée, viennent en premier les maladies hémolytiques, avec en premier plan les IFME rhésus, puis ABO et le G6PD. On a aussi d'autres pathologies des globules rouges, et on remarque qu'il y a quand même environ quasiment 5% d'étiologies pour lesquelles, qui n'ont pas été retrouvées en fait, 5% des exsanguinotransfusions qui n'ont pas trouvé d'étiologie. Concernant les modalités de réalisation des exsanguinotransfusions dans les centres, les protocoles utilisés, c'était majoritairement des protocoles faits par le service, pour 62%. Beaucoup utilisent aussi celui du CNRHP, à 23%. On note ensuite que ça peut être des protocoles extérieurs, et il y a quand même 2,3% des centres qui n'ont pas de protocole pour cette technique. Concernant la procédure en elle-même, elle était très majoritairement réalisée par les médecins seniors, ensuite par les internes. C'était des échanges quasiment exclusivement manuels et non automatisés, et réalisés via un cathéter veineux ombilical. Les établissements français du sang délivrant les PSL nécessaires à la technique étaient majoritairement situés dans le même site que l'hôpital réalisant l'exsanguinotransfusion, et elles délivraient majoritairement du sang total. Concernant les délais et durée de la procédure, le délai entre prescription et distribution des PSL en fonction du PSL fourni était majoritairement rapide, puisque plutôt inférieur à 3 heures. Et on remarque que ce délai peut s'allonger à 3 à 6 heures si c'est plutôt du sang total qui est commandé. Un seul centre avait un délai supérieur à 6 heures et c'était en lien avec un EFS qui n'était pas sur place. Quand on regarde le même délai en fonction de la place de l'EFS, on remarque qu'effectivement le délai moyen de moins de 3 heures est majoritairement obtenu avec un EFS qui est sur place et s'allonge dès que l'EFS n'est pas au même endroit que l'exsanguinotransfusion. Le délai entre indication et réalisation de l'exsanguinotransfusion était relativement long puisque ça pouvait mettre entre 3 et 6 heures pour démarrer une exsanguinotransfusion alors qu'il s'agit quand même d'une procédure d'urgence. Deux centres sont au-delà des 6 heures pour la mise en œuvre et à nouveau ça dépend du type de PSL et de la situation de l'EFS. On avait demandé au centre pour eux quelles étaient les causes de délais justement un peu allongés pour mettre en œuvre l'exsanguinotransfusion. La majorité évoque la mise à disposition des PSL qu'on revoit dans les diapos précédentes. Également le transfert du patient, ce qui n'est pas négligeable effectivement. La mise en place de la voie d'abord. Et on note quand même qu'il y a 33% de personnes qui disent que la discussion à l'indication peut retarder la mise en œuvre de l'exsanguinotransfusion, ce qui laisse penser que poser l'indication à une exsanguinotransfusion n'est pas forcément si simple pour tous les centres. C'est une procédure du coup assez longue, puisqu'on retrouve une durée moyenne d'exsanguinotransfusion de 2 à 4 heures, ce qui mobilise les médecins et les équipes pendant assez longtemps pour réaliser cette technique. Ensuite, la deuxième partie concernait l'analyse des protocoles qui nous ont été transmis. Donc, 20 protocoles ont été étudiés, notamment celui du CNRHP, et comparés aux recommandations de 2014 et 2016. Ce qu'on conclut, c'est qu'il existe une très grande variabilité entre ces protocoles, que ce soit dans leur contenu et leur précision. Tous ne précisent pas qu'il faut réaliser un bilan antiologique, et celui-ci n'est pas forcément très complet. Ne précisent pas les traitements administrés, comme les immunoglobulines ou l'albumine. La durée de l'échange est très variable selon les protocoles et les centres, ainsi que la surveillance du patient pendant l'échange et le suivi neurologique au décours. Certains protocoles sont plus ou moins pratiques que d'autres. Effectivement, certains fournissent une liste du matériel à avoir pour réaliser la technique pour aller plus vite, un schéma de montage, décrivent les gestes et étapes, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et concernant le respect des recommandations, c'est très variable également. Les bilans sont souvent incomplets au regard des recommandations. La fraîcheur des PSL est parfois trop longue. Le volume de sang échangé, parfois trop important ou au contraire pas assez important. La durée de l'échange peut être très prolongée ou trop courte. Et les posologies ne sont souvent pas exactes. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur notre étude ? Qu'il y a effectivement des limites à cette étude. Nous avons eu 17 centres qui n'ont pas répondu et nous n'avons pas fait de liste de relance. Néanmoins, les centres les plus concernés sont souvent les plus intéressés, ceux qui répondent. Avec ça, nous avons quand même réussi à avoir un taux de participation de 74% avec une majorité des grands centres parisiens et de province. On est plutôt représentatif de cette technique en France sur l'étude. C'était aussi un questionnaire assez long, avec un risque de lassitude. On a essayé de contrôler ce biais en faisant des questions ouvertes, très peu de questions ouvertes et plutôt en début de questionnaire et des QCM plutôt en fin de questionnaire. On obtient ainsi des moyennes et des médianes de taux de réponse qui sont toutes supérieures à 85%. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur notre étude ? C'est que les étiologies ne sont pas toujours bien recherchées par les centres. Ça peut entraîner des pathologies non diagnostiquées et comme le suivi n'est pas forcément assuré et pourtant indispensable, je pense que certaines pathologies resteront non retrouvées. Les indications à l'exsanguinotransfusion ne sont pas toujours bien identifiées par les pédiatres. Ça peut entraîner un retard de prise en charge et un risque d'atteinte neurologique. C'est une technique qui nécessite de l'anticipation, une bonne organisation. Sinon, on s'expose à un risque de retard de mise en route du traitement et aussi une augmentation du temps de procédure avec mobilisation des médecins. Et c'est une procédure qui comporte de nombreux détails, éléments techniques. Le problème, c'est que si on ne les respecte pas, il y a un risque d'inefficacité ou de complications liées à la technique. Le problème qui est soulevé, c'est aussi que les exsanguinotransfusions sont rares. Moins de 0,5 exsanguinaux pour 1000 naissances et moins de 5 exsanguinaux pour 1000 entrées en réanimation, ce qui est vraiment faible. Néanmoins, il n'y a pas de recueil officiel en France, ce serait intéressant d'en créer un pour essayer d'avoir des chiffres un peu plus précis ici. La raréfaction des exsanguinaux entraîne une difficulté de formation, que ce soit pour les internes mais aussi pour les médecins seniors, puisque les médecins expérimentés, il y en a de moins en moins pour cette technique. Et il n'y a pas de technique de simulation qui puisse un peu parer à ce manque de médecins expérimentés. Donc, globalement, l'expérience des médecins diminue et on peut s'attendre à peut-être avoir des complications attendues. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des risques liés à la procédure, des risques liés à l'expérience des médecins et des protocoles malheureusement variables et pas toujours à jour des dernières recommandations pour les soutenir dans cette technique. On peut aussi se demander s'il n'existe pas un intérêt à réaliser un protocole uniforme national pour assurer la bonne pratique de cette technique. Je vous remercie.